France Musique.
Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Il les chante depuis l'âge de 10 ans. À 36 ans, Raphaël Pichon a enfin enregistré les motets de Jean-Sébastien Bach. Avec son ensemble Pygmalion, il nous offre une interprétation jubilatoire de ces pièces qui étaient pourtant jouées pour les services funèbres. À moins d'un mois d'une nouvelle production d'Hippolyte et Aricie de Rameau à l'Opéra Comique, le chef baroque le plus couru de sa génération appelle le monde de la musique classique à se réinventer face à la crise sanitaire. Raphaël Pichon sera notre invité à 8h30. Le couvre-feu instauré la semaine dernière pour lutter contre la propagation du Covid a des conséquences économiques à nouveau très lourdes pour le monde du spectacle. Il illustre aussi le poids limité du ministère de la Culture. Selon Antoine Péker de La Lettre du Musicien, son billet écho, ce sera à 7h50. Et puis, parmi les acteurs du monde de la musique qui ont dû s'adapter, il y a nous, Radio France. Comment les concerts vont-ils être présentés? Quelles perspectives pour ces prochaines semaines? On sera en ligne à 7h20 au fil de l'actu avec Michel Laurier, le directeur de la musique et de la création à Radio France.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique et même de très bonne heure. On file chez le coiffeur.
Couturier, fleuriste, gantier, oui, chacun d'eux pour ma toilette avait fort bien fait son métier. Un seul fournisseur méprisable de tout ce retard est l'auteur. Voulez-vous le mot du coupable? C'est le coiffeur. Tous ces coiffeurs, tous ces coiffeurs sont des flâneurs. Oh, mesdames, c'est le coiffeur. Ce coiffeur est un être étrange, tenu chez moi, j'ai justement une femme de chambre, un nom. Tout à l'heure, à l'instant, je l'ai sonné et ressonné. Elle est arrivée tout en sueur, tout a troublé et chiffonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ce retard? Et surtout, pourquoi êtes-vous dans cet état? Elle m'a répondu en baissant les yeux. « Ah, madame, c'est le coiffeur, tous ces coiffeurs sont des farceurs. Ah, madame, c'est le coiffeur. »
Un peu d'opérette pour commencer cette matinale. Les couplets du coiffeur, extrait de l'opérette La Cosaque d'Hervé, c'était Marie-Père Bost. Et l'ensemble Les Frivolités Parisiennes sur le disque Une Jeunesse à Paris, premier disque en solo de la soprano. Marie-Père Bost qui a remporté en début d'année la victoire, la révélation lyrique, victoire de la musique classique. Et si vous faisiez partie des jurés des victoires de la musique classique, si vous faisiez partie du collège de votants aux prochaines victoires, comme l'année dernière, la cérémonie ouvre le vote au public. 50 votants non professionnels. Pour participer, pour être retenu, il faut faire acte de candidature. Sur francemusique.fr, vous avez jusqu'au 5 novembre. France Musique 7h10, notre nouveauté ce matin, c'est le dernier disque d'Hélène Grimaud. Il vient de paraître chez Deutsche Grammophon. The Messenger, le messager, c'est son titre. Il propose un dialogue musical entre plusieurs œuvres de Mozart et d'autres du compositeur ukrainien contemporain Valentin Silvestrov. Les disques au programme inattendu, les couplages inhabituels m'ont toujours intéressé parce que j'ai le sentiment que certains morceaux peuvent donner un éclairage particulier à d'autres, explique Hélène Grimaud. C'est vrai qu'elle est coutumière du fait parfois c'est réussi, d'autres pas. Là, plutôt, cela fait plusieurs années qu'elle travaille les œuvres de Silvestrov, elle qui se voit comme un médium, comme une médiatrice avec le compositeur et auditeur. Elle aime à faire ses croisements ici à l'apparente simplicité du mouvement lent du 20e concerto pour piano de Mozart. Réponse et page néoclassique du compositeur ukrainien, comme ici dans cette valse de mariage, extraite des deux dialogues avec Post-Scriptum de Valentine Silvestrov. Hélène Grimaud est au piano, elle est avec la Camerata de Salzbourg.
Thank you.
Wedding Waltz, valse de mariage, extraite de deux dialogues avec post-scriptum de Valentine Silvestrov, Hélène Grimaud au piano et la Camerata de Salzbourg, Silvestrov croisée à Mozart. C'est un nouveau disque paru chez Deutsche Grammophon.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
L'élégance, la sensualité, l'émotion de la voix de Julie London, Fly Me to the Moon en 1963, musique d'Howard Bartz, la chanteuse américaine qui s'est éteinte il y a 20 ans tout juste. C'était dans la nuit du 18 au 19 octobre 2000. Il est 7h19.
France Musique,
vous allez l'adorer. Il est en vigueur depuis samedi minuit, le couvre-feu en vigueur pour 4, probablement 6 semaines dans 9 métropoles françaises. Il bouleverse le monde de la musique et du spectacle et c'est un casse-tête de plus pour les organisateurs. Et parmi ces organisateurs, il y a Radio France. Bonjour Michel Aurier.
Bonjour Jean-Baptiste.
Directeur de la musique et de la création à Radio France. Alors le chef de l'État a annoncé ce couvre-feu la semaine dernière, mercredi comme d'autres. Vous avez espérer un assouplissement pour les salles de spectacle où le billet aurait été une dérogation pour rentrer chez soi après 21h ?
Oui, je crois qu'on l'a tous espéré à un moment donné. En même temps, voilà, c'est compliqué d'avoir des mesures différenciées. Donc,
il faut faire avec.
Finalement, donc on a bougé en fonction les horaires de concert. Hein. Chez nous, ça sera à 18h30. Je crois que l'ensemble de la vie nocturne ou pré-nocturne, d'une part, évidemment, se raccourcit ou disparaît, mais surtout va remonter un petit peu dans le temps. Il y a beaucoup de restaurateurs qui vont ouvrir des formules à partir de 18h30 également. Donc voilà, on va faire avec le temps nécessaire. Ça occasionne une série d'embarras supplémentaires. Mais ça nous permet de jouer, ce qui est quand même le plus important pour nous. Et donc, à partir de 18h30, on va délivrer la musique qu'on aime et qu'on a envie de continuer à délivrer pour le public et pour nos auditeurs.
Michel Aurier, question très pratique. Si je ne peux pas assister à un concert à 18h30 alors que j'avais pris une place pour 20h, si je ne pense pas être rentré chez moi pour 21h parce que j'habite loin de la maison de la radio, on peut être remboursé ?
Oui, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. pour peut-être rembourser.
Ce public, les spectateurs restent fidèles et présents depuis le début de l'année. On le voit dans les salles de spectacle. Beaucoup d'ailleurs d'artistes parlent presque d'un acte de résistance.
Oui, c'est vrai. Il y a une ferveur du public qui est impressionnante et qui est vraiment très réconfortante. Il y a une envie de vivre, je crois, surtout, qui persiste. On sait qu'on va malheureusement vivre ce vie en temps plus long que imaginé au début. Il continue à prendre sa place et la musique au milieu de la vie, c'est essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on a un public effectivement nombreux, engagé, et qui soutient énormément les musiciens qui sont sur le plateau.
A priori, ces prochaines semaines, vous allez pouvoir maintenir tous les concerts ou il va y avoir quand même des annulations ?
Alors, l'essentiel est maintenu. Il y a quelques annulations qui sont dues pour l'essentiel à des musiciens qui ne peuvent pas nous rejoindre parce qu'ils sont de pays dans lesquels il y a des systèmes de quarantaine qui sont complexes à mettre en place. Mais dans l'ensemble, la programmation est maintenue. On a cette semaine Balaké Sissoko et Vincent Segal mardi, le concert de Mico Franck avec la Fantastique mercredi, ainsi que Patricia Kobachinskaya sur le concerto de Bartok, et puis l'Orchestre National de Jazz, de France, excusez-moi, il est tôt, l'Orchestre National de France, qui prépare Salomé au Théâtre des Champs-Élysées.
Les artistes aussi s'adaptent et on s'en est rendu compte, Michel Laurier, la semaine dernière à la Maison de la Radio, avec John Elliott Gardiner qui était notre invité vendredi matin. Il en parlait encore vendredi matin, il devait diriger un requiem allemand. Et puis dans la journée, le programme a changé et finalement ça a donné deux concerts vendredi et samedi. On l'a entendu vendredi soir en direct sur France Musique, un concert d'une très grande intensité.
Oui, c'est vrai. Mais ma première pensée, elle est quand même pour les musiciens du chœur. Puisque comme vous le savez, la Covid a malheureusement a contaminé quelques musiciens du chœur et c'est la raison pour laquelle on a changé de programme, donc je pense évidemment beaucoup à eux. Mais voilà, ce sont des accidents qui font qu'il y a aussi des choses heureuses qui se produisent et le concert de le concert de la troisième de Brahms et le Perfect qu'il a donné, etc. Ça a été un concert évidemment très beau, c'est vrai.
Très intense, dernier concert d'ailleurs avant plusieurs semaines qui avait lieu à 20h. Merci beaucoup Michel Laurier, que vive la musique à Radio France ces prochaines semaines un peu plus tôt, à 18h30. Et puis nos micros sont là, et d'ailleurs ce concert de vendredi soir, il a réécouté pendant un mois sur francemusique.fr, en voici un extrait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était vendredi soir, ici à la Maison de la Radio, à l'Auditorium, le troisième mouvement de la troisième symphonie de Johannes Brahms, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par John Elliott Gardiner. Concert à réécouter sur francemusique.fr pendant un mois. Et tous ces concerts dont nous parlions avec Michel Aurier, qui auront lieu désormais à 18h30, bien sûr, continueront d'être diffusés à 20h, légèrement décalés, sur l'antenne de France Musique. Le couvre-feu instauré la semaine dernière pour lutter contre la propagation du Covid a des conséquences économiques à nouveau très lourdes pour le monde du spectacle et de la musique. Il illustre aussi le poids limité du ministère de la Culture, selon Antoine Péqueur de la Lettre du Musicien. Son billet écho, c'est dans 20 minutes. À tout de suite.
Chaque matin, Ampice vous fait découvrir les nouveautés discographiques.
Les grandes rééditions, le portrait de la semaine, le disque du jour, nous partageons avec vous nos coups de cœur.
Ampice, du lundi au vendredi de 9h à 11h, c'est votre magazine d'actualité du disque.
Sur France Musique et en podcast.
France Musique, 7h30. Un nouveau point sur l'actualité avec Damien Maistre. Bonjour Damien.
Bonjour Jean-Baptiste. Après l'émotion et les rassemblements, le gouvernement promet des actions concrètes et fortes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient réunies hier partout en France. Rassemblement pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur décapité vendredi en région parisienne. Et à l'issue d'un conseil de défense, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement de la sécurité devant les établissements scolaires. Mais il a également promis des mesures pour surveiller davantage les réseaux sociaux, Simon Le Baron.
Car au-delà du terroriste lui-même, il y a tous ceux qui ont, directement ou indirectement, contribué à créer les conditions du passage à l'acte. Voilà le constat de l'exécutif et voilà pourquoi il entend mieux encadrer les réseaux sociaux. La vidéo d'un père de famille et celle d'un prédicateur radicalisé qui s'en prenait au professeur ont été relayées des milliers de fois dans les jours qui ont précédé l'attentat. L'Élysée n'y fait pas explicitement référence, mais assure vouloir détecter plus efficacement les signaux annonciateurs. La plateforme Pharos, qui traque les contenus illicites, pourrait être renforcée. Elle a d'ailleurs repéré depuis vendredi 80 messages de soutien aux terroristes, dont les auteurs vont faire l'objet d'opérations de police dès aujourd'hui. Et puis Emmanuel Macron cible aussi ceux qui auraient manipulé ces annonces sur le séparatisme pour faire croire à une croisade anti-musulmans, en particulier certains médias des pays arabes, selon l'Élysée. Le gouvernement veut donc diffuser son propre contre-discours pour y répondre. Combattre la haine en ligne, le sujet est en tout cas sensible, politiquement et juridiquement. C'était l'objet de la loi Avia, censurée il y a 4 mois par le Conseil constitutionnel.
Sur le plan sanitaire, la situation continue à se dégrader en France. Les admissions en réanimation augmentent encore ce week-end. 30 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures hier. Et partout en Europe, le virus progresse. L'Italie et la Suisse annoncent à leur tour un durcissement des restrictions. Durcissement qui ne va pas sans des tensions et des contestations de la part de la population. En République tchèque, pays le plus touché, la police a dû intervenir hier pour disperser une violente manifestation. Auchan met fin à ses activités en Chine. Le groupe de distribution annonce aujourd'hui la vente de sa filiale Sunart. 484 hypermarchés qui appartiennent désormais aux géants du commerce en ligne Alibaba. Le tout pour quelques 3 milliards d'euros. En Bolivie, c'était jour d'élection. Hier, c'est Luis Arce, le dauphin d'Evo Morales, qui remporte la présidentielle dès le premier tour. Présidentielle cruciale aussi à Chypre Nord, dans la partie occupée par l'armée turque depuis plus de 4 décennies. Déjouant tous les pronostics, c'est Ersin Tatar qui l'a emporté. Candidat nationaliste, il est soutenu par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Forte mobilisation toujours en Biélorussie où des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier contre le président Alexandre Loukachenko. Des manifestations malgré la menace de tir à balles réelles de la police qui a interpellé plus de 200 personnes. Enfin, la météo du soleil aujourd'hui sur la majorité du pays. Une atmosphère agréable, du beau temps, des températures plutôt douces, même s'il fait encore frais ce matin. Comptez 13 à 18 degrés cet après-midi sur la moitié nord, 17 à 22 au sud, avec des pointes tout de même jusqu'à 25 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Jean-Baptiste.
Damien Maistre, vous revenez à 8h pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Thank you. La musique d'Hérold sur France Musique, Louis-Joseph Ferdinand de son prénom, compositeur français du début du 19e siècle. Il n'a d'ailleurs pas vécu bien vieux. Hérold, mort à 44 ans en 1833. Il aurait eu le temps quand même de composer 4 concertos. C'était ici le rondeau de son 2e concerto avec Jean-Frédéric Neuburger, le Sinfonia Varsovia dirigé par Hervé Niquet, et c'est avec l'Orchestre de Paris dirigé cette fois par Stanislav Kochanowski qu'il sera, Jean-Frédéric Neuburger, en concert en fin d'après-midi tout à l'heure à la Philharmonie de Paris, nouvel horaire 18h30, au programme Le Concerto de Schumann ainsi que des extraits du Lac des Cygnes. Il est 7h40. Et dans l'actualité musicale, ce matin, on en parlait il y a quelques minutes avec Michel Aurier, le directeur de la musique et de la création de Radio France, un requiem allemand qui devait être donné vendredi et samedi à l'auditorium de la Maison de la Radio, a été remplacé à la dernière minute par la 3e symphonie du même Brahms. C'est ce donc quelques heures seulement avant la représentation en cause des cas de Covid dans le chœur de Radio France. Concert à réécouter sur francemusique.fr et article à retrouver également sur notre site dans la rubrique Actualité musicale. Au Grand Théâtre de Genève, l'affaire Makropoulos de Janáček du 26 octobre au 6 novembre sera présentée avec des chanteurs sur scène, mais sans orchestre, live. Dans un communiqué, le théâtre annonce que l'orchestre de la Suisse romande ne se produira pas en direct de la fosse. Les chanteurs seront accompagnés par une bande orchestrale réalisée à cet effet. En cause, la grande promiscuité qu'implique l'effectif musical exigé par l'affaire Makropoulos. Le Grand Théâtre avait anticipé cette situation et enregistré durant l'été la partie orchestrale. Johanna Malengré, ou Johanna Malengré, nommée à la direction musicale de l'orchestre de Picardie. Ce sera à compter de 2022. La chef allemande succède à Arje van Beek. Le site Res Musica rappelle que la chef allemande est la 2e femme nommée à la tête d'un orchestre permanent en France après Deborah Waldman. Elle a pris, elle, ses fonctions le 1er septembre à la tête de l'Orchestre National d'Avignon-Provence. Et puis dans Le Figaro ce matin, Christian Merlin revient sur Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns à l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Nouvelle production signée Marie-Ève Signerol avec un parti pris de départ clair. Dans cette histoire, ce n'est pas la religion qui est au premier plan pour la metteuse en scène, mais la politique à travers la lutte contre le pouvoir. Elle fait, écrit Christian Merlin, du drame biblique une fiction politique digne de Netflix. Pour véhiculer ce récit, ajoute-t-il, les chanteurs sont d'une grande crédibilité scénique, à commencer par la Dalila de Katharina Bradic, qui n'a certes pas la voix large et profonde d'un grand contralto dramatique, mais se révèle une solide mezzo respectueuse du style et de la langue. Jean-Sébastien Boulle, lui, s'en donne à cœur joie en politicien opportuniste digne de la série Le Baron Noir. Voilà, Samson et Dalila à l'Opéra National du Rhin, c'est à Strasbourg jusqu'au 28 octobre, puis à la Filature à Mulhouse les 6 et 8 novembre. Voici un extrait de Samson et Dalila. Thank you. Voici le printemps, nous portant des fleurs, le cœur des Philistines de Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns. C'était le cœur René Duclos, l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Georges Prêtre en 1962. Dans les trésors de France Musique, ce soir à 23h, Françoise Montaigne nous propose jusqu'à mercredi un hommage à Juliette Gréco, disparue le mois dernier, avec en trois volets jusqu'à mercredi, donc l'émission Mémoire retrouvée en 1999. Au micro d'Ariel Buteau, la chanteuse et actrice se racontait, évoquait son travail d'interprète et son rapport à la musique également. Extrait.
La mémoire fonctionne avec la musique, c'est très drôle. C'est très difficile, autant on peut dire un poème, quand il n'y a pas de musique dessus, mais aussitôt qu'il y a de la musique, c'est un tout. Tout à coup, c'est indissociable, c'est très étrange. Mais la musique est un véhicule extraordinaire. Mais sans la musique, il n'y aurait pas de chansons. Sans la musique, il n'y aurait pas de chansons populaires. Parce que si Yppe Le Berger, chanson révolutionnaire s'il en est, si Yppe Le Berger n'était resté que l'être, ça ne serait pas entré dans la maison des gens. Ça ne serait pas descendu dans la rue. Et ce ne serait pas dans la mémoire collective. Parce qu'il y a d'admirables poèmes. Heureusement que Ferré a eu le toupet salutaire de mettre de la musique sur Baudelaire. Parce que c'est extrêmement gratifiant. Il faut donner à la poésie le véhicule de la musique pour qu'elle entre chez tout le monde. Quand pour la première fois, moi, j'ai entendu un type qui sifflait, si tu t'imagines, dans la rue de Verneuil où j'habitais, qui sifflait, si tu t'imagines, j'étais comme une bête. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Un poème, c'est une voix, d'accord. On peut lui offrir sa voix. Mais si on lui offre la musique, on lui donne des ailes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis en ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes où se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantes. Toi tu m'aimais, mais je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amours. Et unis.
Les Feuilles Mortes, musique de Joseph Kosma, parole de Jacques Prévert, Juliette Gréco à l'Olympia en 1992. Juliette Gréco dans les Trésors de France Musique, un entretien en trois parties ce soir, mercredi et mardi, plutôt ce soir, mardi et mercredi dans le bon ordre à 23h. Et quand vous voulez, bien sûr, en podcast sur l'application Radio France. Il est 7h50. Et comme tu l'as dit, on a rendez-vous avec Antoine Péqueur de La Lettre du Musicien, le Billet Écho. Bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Dans votre Billet Écho, ce matin, vous vous intéressez à l'impact du couvre-feu sur le secteur culturel et sa gestion par l'exécutif.
Une gestion, Jean-Baptiste, quelque peu hasardeuse. L'adage dit que gouverner, c'est prévoir. Mais ces derniers jours, on a plutôt eu la démonstration inverse. Tout commence, je le rappelle, mercredi dernier, quand Emmanuel Macron annonce le couvre-feu à partir de 21h à Paris et dans 8 métropoles. Le président se veut concret et explique que pour une personne qui a besoin de 30 minutes de transport, il devra par exemple partir à 20h30 pour rentrer chez lui. C'est donc le branle-bas de combat immédiat chez tous les directeurs de structures culturelles qui se lancent dans les reprogrammations en avançant l'heure des spectacles ou bien en changeant les programmes pour privilégier des formes plus courtes. Et les syndicats professionnels montent au créneau, dénonçant une mesure qui va encore plus freiner le déjà timide début de relance du secteur. Et même l'annonce du redéploiement de l'activité partielle ne calme pas les tensions. Mais surprise, dès le lendemain, la ministre de la Culture s'exprime pour dire qu'elle va demander des adaptations pour les salles, pour les cinémas. L'idée est que 21h puisse être l'heure de départ de la salle et non pas l'arrivée chez soi. Sauf que vendredi, la même Roselyne Bachelot a été remise à sa place, il n'y a pas d'autre mot, par Jean Castex. En déplacement à Lille, le Premier ministre a dit, je le cite, que les règles doivent être les mêmes pour tous. Il n'y a donc pas d'exception pour la culture, au risque sinon d'ouvrir une brèche pour d'autres secteurs.
Alors Antoine Péqueur, comment vous analysez ces dissensions?
Elles sont d'autant plus cinglantes, Jean-Baptiste, qu'elles arrivent un mois seulement après l'annonce du volet culturel du plan de relance. Une annonce, on s'en souvient, qui avait été faite conjointement par Jean Castex et Roselyne Bachelot. Le Premier ministre avait alors même fait le déplacement rue de Valois, tout un symbole martelé dans les éléments de langage du gouvernement. On avait l'impression d'une lune de miel entre Castex et Bachelot, qui sont de la même génération, les deux mélomanes, et surtout de la même famille politique. Un ancrage à droite qui aurait donc pu profiter à la culture, c'est ce que voulaient croire en tout cas nombre de professionnels. Mais la crise de ces derniers jours est venue rappeler que le ministère de la Culture n'est pas un ministère régalien, il n'a pas le même poids. Un exemple encore, jeudi, la conférence de presse détaillant les mesures du couvre-feu réunissait les ministres de la Santé, de l'Économie, de l'Intérieur, du Travail, mais pas la Culture. Alors comment celle-ci peut-elle se faire davantage entendre? Faut-il, comme cela avait été un peu tenté dans le passé, davantage la lier au ministère de l'Éducation? Ces annonces contradictoires des derniers jours auront en tout cas montré que si l'improvisation est une grande qualité en musique, elle ne l'est pas forcément en politique.
Antoine Péqueur, le Billet Écho en partenariat avec La Lettre du Musicien, à retrouver sur francemusique.fr. À lundi prochain, Antoine.
Bonne semaine. Thank you.
Beethoven, la fin du 8e quatuor, c'est l'opus 59, numéro 2, et c'était le Quartetto Casals, deuxième volume de l'intégrale Beethoven, des quatre musiciens espagnols, un disque paru l'an dernier chez Harmonia Mundi, un disque choix de France Musique, et un disque à gagner ce matin. Pour le gagner, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin. Donnez la bonne réponse, n'oubliez pas vos coordonnées et à vous peut-être l'un des exemplaires en jeu. Comme tous les jours, on joue avec les vidéos musicales. Vous pouvez les revoir à l'envi sur francemusique.fr. C'est dans l'onglet concert en replay, comme ici. Dans Génération France Musique, le live, l'émission de musique vivante de France Musique tous les samedis de 16h à 18h. Cette mélodie anglaise interprétée par le ténor Cyril Dubois avec Anne Le Bozec au piano. Alors voici la question, de quand date selon vous cette mélodie anglaise? 1917, 1937 ou 1957? 1917, 1937, 1957. À vous de jouer pour gagner le disque du Quartetto Casals. Et la réponse, dans une heure, vendredi dernier, nous jouions avec les Moulins de mon cœur, Michel Legrand. Une musique que le compositeur a écrite pour le film L'affaire Thomas Crown. C'était la bonne réponse au jeu.
Thus kindly I scatter thy leaves o'er the bed.
Alors, à votre avis, 1917, 1937, 1957, cette mélodie anglaise interprétée sur France Musique par Cyril Dubois et Anne Le Bozec. À vous de jouer et la réponse dans une heure. À tout de suite.
Arabesque, de 13h30 à 15h, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Sa mère lui avait donné comme prénom Samson, comme symbole de la force, et comme deuxième prénom Pascal, pour l'esprit. Samson François s'est éteint il y a 50 ans, le 22 octobre 1970, au terme d'une carrière fulgurante. Nous serons toute la semaine en compagnie de ce grand interprète, ce noctambule et poète du piano, qui disait « J'aime la musique par amour, tout bêtement et sans me poser de questions ».
Arabesque, de 13h30 à 15h, à retrouver sur France Musique et en podcast sur l'application Radio France. Vous aimez le chant, la musique, les histoires passionnées? Opéra, la dernière radio thématique de France Musique, est pour vous. Entrez dans cet univers magique. Laissez-vous emporter par les voix d'hier et d'aujourd'hui. Maria Callas, Luciano Pavarotti, Cecilia Bartoli, Roberto Alagna, Sabine Devielle, Jakub Józef Orlinski, sans pub et totalement gratuit. Opéra, à écouter en illimité sur francemusique.fr et l'application Radio France.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous écoutez France Musique, sans pub, il est 8h. Le journal, Damien Mestre. Bonjour Damien.
Bonjour Jean-Baptiste. Comment être prof sereinement en France en 2020? C'est un peu la question qui une nouvelle fois s'est posée hier dans les rassemblements. Rassemblements qui ont réuni des dizaines de milliers de personnes partout en France en hommage à Samuel Paty, cet enseignant décapité vendredi après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. À Toulouse, Stéphane Iglesis a rencontré ces profs qui déjà s'interrogent et redoutent parfois la prochaine rentrée.
Beaucoup d'enseignants rencontrés hier place du Capitole pensaient déjà à ce qu'ils vont faire le jour de la rentrée le 2 novembre. Fatia Boudjalat, prof d'histoire géo au collège Maurice Beccan à Toulouse.
Quand il y a eu Charlie, on a des collègues qui n'étaient pas profs d'histoire géo qui nous ont dit « Ah non, moi je suis prof de maths, donc j'ai pas été formé pour. Je suis prof de SVT. » Ils se sont réfugiés dans leur discipline. Et donc ils nous ont dit « Nous, c'est vous, les profs d'histoire géo. » Comme si les profs d'histoire géo étaient des profs de République. Les valeurs, c'est partout. Et c'est en train de contaminer les sciences. Est-ce que la Terre est plate? Des parents qui vont refuser les cours de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles. Nous enseignons la science. Nous enseignons pas la religion. On n'est pas là pour conforter dans un catéchisme.
Pas d'autocensure, c'est le postulat de Pierre-Yves Chanel, lui aussi prof d'histoire géo au lycée Rive-Gauche, le lycée du Mirail.
Elle s'est posée pour moi le jour des attentats de Charlie Hebdo et on avait, à ce moment-là, j'avais montré les caricatures. La question, c'est qu'à l'extérieur, il est nécessaire de défendre la République face à des gens qui ne souhaitent pas la faire respecter et qu'on appelle les islamistes.
Certains enseignants rencontrés demandent à être accompagnés le jour de la rentrée pour ne pas être seul à défendre la liberté d'expression et les valeurs de la République.
Être accompagné, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron hier à l'issue d'un conseil de défense. Il a annoncé le renforcement de la sécurité des établissements scolaires avec des mesures qui devraient être prises d'ici la rentrée du 2 novembre prochain. La crise sanitaire continue de s'aggraver en France et avec elle, la crise économique qui touche les plus précaires. Alors Jean Castex l'a annoncé hier, l'aide exceptionnelle de 150 euros sera finalement bien étendue aux jeunes qui touchent les APL. Mais face à la crise qui touche durement les moins de 25 ans, certains demandent à ce qu'on aille plus loin et on appelle à l'ouverture du RSA pour les plus jeunes qui aujourd'hui n'ont pas le droit à ces aides. C'est ce que défend Tom Chevalier, chercheur au CNRS.
C'est une nécessité aujourd'hui pour deux raisons en fait. Une première raison qui est que le RSA, c'est le premier dispositif de lutte contre la pauvreté. Or, les jeunes correspondent à la catégorie de la population, la tranche d'âge la plus touchée par la pauvreté. Ils ont un taux de pauvreté près de deux fois supérieur à la population générale. Ils sont quatre fois plus pauvres que les plus de 60 ans, les plus de 65. Donc c'est vraiment la première catégorie de la population qui est touchée par la pauvreté, alors que dans le même temps, c'est la seule du coup catégorie de la population qui ne peut pas avoir accès au principal dispositif de lutte contre la pauvreté, donc au RSA, en raison de cette limite d'âge à 25 ans. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le décalage qu'on peut trouver entre les limites d'âge qu'on a en France. Donc on a des limites d'âge, en gros, pour accéder à l'âge adulte, souvent autour de 18 ans. Par exemple, pour la majorité civile, 18 ans, majorité politique, le droit de vote, 18 ans. Et en fait, on a cette exception de l'accès à la citoyenneté sociale avec cet âge à 25 ans. C'est deux paradoxes en fait qui justifieraient l'ouverture du RSA au moins de 25 ans.
En Bolivie, c'est Luis Arce, le dauphin d'Evo Morales, qui vient de remporter la présidentielle. Le pays a renoué avec la démocratie, assure-t-il, un an après la démission de l'ancien dirigeant socialiste. Élection cruciale également à Chypre Nord, dans la partie occupée par l'armée turque depuis plus de 4 décennies. Et une élection qui a déjoué tous les pronostics en faveur des nationalistes. Angélique Kourounis.
Le nationaliste Ersin Tatar et la Turquie, qui l'a ouvertement soutenu, sont les grands vainqueurs de ce scrutin face à Mustafa Akinci, président sortant, favori des sondages, mais battu avec plus de 4 points de différence. Les deux hommes représentaient les deux avenirs possibles de l'île de Chypre. Mustafa Akinci est un modéré en froid avec Erdogan. Il rêvait pour l'île de Chypre, divisée depuis 46 ans, d'une fédération bisonnaire loin de l'influence turque. Son rival, Ersin Tatar, très proche de Tayyip Erdogan, veut au contraire une solution à deux États séparés au sud, l'actuel État chypriote grec, le seul reconnu internationalement, au nord, la partie occupée par l'armée turque qui resterait dans le giron de la Turquie. Pour Ankara, garder son influence sur Chypre est plus capital que jamais car cela lui permet de revendiquer encore plus d'espace en Méditerranée orientale au nom des droits des chypriotes turcs dont elle est garante. D'où son implication directe dans ce scrutin jamais vu jusqu'à présent. Ainsi, l'ouverture de la ville morte de Varosha, fermé depuis 46 ans, a été annoncé par Ersin Tatar aux côtés du président turc à Ankara. L'inauguration de l'oléoduc sous-marin qui relie Chypre Nord à la Turquie s'est fait en grande pompe quelques jours après par les deux hommes. Enfin, selon les médias chypriotes turcs, 10 000 personnes ont bénéficié d'une enveloppe de 230 euros pour voter contre Mustafa Akinci, qui de son côté a déclaré avoir reçu des menaces afin qu'il ne se présente pas à ces élections. Autant dire qu'à moins de miracle, la page des négociations intercommunautaires en vue de la réunification de l'île est définitivement tournée.
La météo, Jean-Baptiste, c'est sec et lumineux aujourd'hui. Si vous habitez dans le sud, ce sera même très agréable. 23 degrés attendus à Biarritz cet après-midi. C'est quand même un petit peu plus couvert dans le nord-est. À Paris, on attend une quinzaine de degrés.
C'était le journal de Damien Mestre, de retour demain à 7h. Prochain point sur l'actualité sur France Musique, tout à l'heure à 13h. Musique Matin, deuxième heure. Il les chante depuis l'âge de 10 ans. À 36 ans, Raphaël Pichon a enfin enregistré les motets de Jean-Sébastien Bach. Avec son ensemble Pygmalion, il nous offre une interprétation assez jubilatoire de ces pièces qui étaient pourtant jouées pour les services funèbres. À moins d'un mois d'une nouvelle production d'Hippolyte et Aricy de Rameau à l'Opéra Comique, le chef baroque le plus couru de sa génération appelle aussi le monde de la musique classique à se réinventer face à la crise sanitaire. Raphaël Pichon sera notre invité à 8h30. La mariée était en noir de François Truffaut avec Jeanne Moreau, c'est ce soir sur Arte. Mais comment le compositeur Bernard Herrmann a-t-il travaillé la bande originale et à quel grand compositeur romantique emprunte-t-il un célébrissime thème? Rendez-vous à 8h20 dans Maxi Classique avec Max Dosolm. Et puis connaissez-vous le spat? C'est un instrument très imposant inventé par un cordiste. Suzanne Gervais nous le fait découvrir dans quelques minutes dans Musique Connectée.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Jouer de la trompette est-il un art risqué? Boudé depuis le début de l'épidémie de Covid, les fabricants d'instruments à vent s'activent en coulisses pour apporter toutes les garanties sanitaires, à même de redonner du souffle à un secteur touché de plein fouet par la crise. Contrairement au piano, contrairement aux guitares qui ont vu leurs ventes bondir pendant et après le confinement, raconte l'agence France Presse, trompettes, clarinettes, hautbois ou autres saxophones doivent, eux, composer avec une chute du nombre des commandes en France comme à l'international. Il y a une appréhension assez forte des musiciens, des professeurs, du public en général pour les instruments à vent soupçonnés de projeter plus de virus à droite et à gauche. C'est ce que raconte Jérôme Perrault, le président du groupe Buffet Crampon, l'un des leaders mondiaux des instruments à vent. Combiné au confinement, à la fin des concerts et à l'annulation des festivals de musique, ces appréhensions ont fait chuter de 40% l'activité de Buffet Crampon. Alors pour tenter de rebondir, l'entreprise s'est associée à l'Institut technologique européen des métiers de la musique et à la Chambre syndicale de la facture instrumentale pour publier un guide des bonnes pratiques destinées à rassurer amateurs et professionnels. On y reviendra sur France Musique. Voici un grand professionnel de la trompette, Guy Touvron. Vivaldi et ce concerto pour trompette, clavecin et cordes qui nous plonge quelques années en arrière. Guy Touvron, I Solisti, Venetti dirigé par Claudio Scimone. France Musique, 8h11. On a rendez-vous avec Suzanne Gervais, comme tous les jours, c'est Musique Connectée. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Et dans votre chronique ce matin, l'initiative d'un musicien, il est corniste et un petit inventeur fou.
Oui, il s'appelle Nicolas Chedma, il est cor solo des arts florissants et s'il joue sur instruments d'époque, il ne se cantonne pas au baroque, loin de là. Il adore bidouiller, trafiquer, inventer de nouveaux instruments. Nicolas est passionné de lutheries alternatives, expérimentales et sa grande réalisation, c'est un cor amplifié aux allures de grandes pieuvres à piston, le SPAT, S-P-A-T, quatre lettres, un petit nom pour un instrument assez impressionnant. Je dis instrument, mais c'est même toute une installation qui occupe une bonne cinquantaine de mètres carrés. Imaginez une vingtaine de pavillons disposés dans une salle autour du public et reliés entre eux grâce à un réseau de câbles et de gros tuyaux branchés à des haut-parleurs qui amplifient le son actionné par des pistons. C'est une invention étonnante qui joue sur la spatialisation acoustique du son. Voilà, on entendait quelques petites secondes de SPAT, mais c'est surtout, vous imaginez bien, une expérience à vivre avant tout en concert. Alors celui qui joue du cor, c'est un corniste, on est d'accord. Celui qui joue du SPAT, qu'est-ce que c'est Jean-Baptiste ?
Un spatiste.
Un spatiste, oui. Nicolas Chedma, il a fait succomber plusieurs musiciens à la folie du spat et à toutes les possibilités sonores qu'offre cet instrument géant. Six spatistes se sont réunis en collectif, les spats sonores, qui donnent plusieurs concerts par an et passent commande à des compositeurs et compositrices. Ce qui est excitant avec les spats sonores, c'est qu'ils prouvent que la lutherie expérimentale n'est pas la chasse gardée de quelques spécialistes, mais que tous les musiciens peuvent s'en emparer. Les spats sonores ouvrent même les portes de la musique expérimentale aux plus jeunes. Une installation où le spectateur est immergé comme ça dans les sons, c'est propice à la rêverie, à l'imagination galopante. Nicolas Chedma m'a ainsi confié que les spatistes avaient pu faire écouter 40 minutes de musique contemporaine à des enfants de maternelle. Les enfants s'allongent dans la pièce et apprivoisent l'espace sonore comme ils le feraient dans la nature en écoutant le chant d'un oiseau ou le train qui passe au loin. Voilà donc un outil idéal pour éveiller les plus jeunes à la création. Les spats sonores étaient en concert à Mamers dans la Sarthe samedi soir. Ils seront en tournée en Estonie du 22 au 24 novembre et en concert en région parisienne dans un peu plus longtemps, le 20 février. D'ici là, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube pour découvrir le monde merveilleux des spats.
Les spats, donc, on peut voir des photos sur la page de Musique Connectée sur francemusique.fr pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Au-delà de votre description, Suzanne Gervais, à demain. Et Nicolas Chedmaï, le voici avec les musiciens du concert de la loge de Julien Chauvin dans ce scherzo du Septuor de Beethoven. Thank you. Le Scherzo du Sepior de Beethoven, Sepior opus 20, c'était le concert de la loge, dont Nicolas Chedmaille au corps, tous avec Julien Chauvin.
À réécouter sur francemusique.fr.